Il serait bon que toute commune eût ses anciens adossés au mur. Un ancien adossé au mur est un homme qui sait bien des choses et qui connaît tous les proverbes. Il sait que quand le marigot zigzague, le caïman doit zigzaguer aussi. Que parmi 100 arbres fruitiers, le colatier se reconnaît toujours et que si un jour le mensonge apparaît, le lendemain, il commence à maigrir. Et que l'homme bien né préfère la ruine de son champ à la ruine de sa parole. Rien n'est plus beau qu'un détail inutile, si ce n'est 2 détails inutiles, 3 détails inutiles, 4 détails inutiles, un livre entier d'inutiles détails. Être inutile est le propre du beau, et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Et c'est ainsi que vous avez reconnu nécessairement Alexandre Vialat.
Bonsoir Francis.
Bonsoir Narzin. Voilà. Bonsoir Francis. Alors, une petite séance, c'est pas la première.
Non.
Sur Alexandre Vialat, ben, pour oui. Alexandre Vialat, qui nous avait quitté en 1971 à 70 ans.
Mmh. Voilà.
Donc, c'est quand même un grand chroniqueur, journaliste, écrivain, traducteur, qui a vécu les 3 premiers quarts du XXe siècle et qui, après les années 50, a eu quand même un certain succès. Il faut dire que Vialat, grand sportif aussi, mais s'est essayé au roman. On ne le lit pas plus énormément trop, aujourd'hui, ouais. Mais il vient précisément d'Ambert, c'est-à-dire de cette région auvergnate, ce qui l'a amené à chroniquer presque 900 fois, ce qui est absolument incroyable, 900 fois dans La Montagne, le journal de Clermont-Ferrand. Et précisément, la plupart des chroniques dont nous rendons compte et que nous écrivons ici et que nous auxquels nous prêtons notre voix, eh bien sont des chroniques qui proviennent justement de la montagne.
Oui, alors c'est publié chez Robert Laffont. Il y a 2 tomes. C'est un achat nécessaire et indispensable pour votre bonne humeur.
Voilà. Et en 2011, il y a eu une année Vialat, où d'ailleurs est sorti un livre où de nombreuses personnalités ont choisi leur chronique, et nous en lirons quelques-unes aussi.
Mmh. En 1991, petite précision, le prix Alexandre Vialat pour récompenser un écrivain de langue française dont l'élégance d'écriture et la vivacité d'esprit soit source de plaisir pour le lecteur.
Il faut de l'humour et ça sera un grand divertissement.
Ouais. Le prix est doté de 6105 euros, c'est-à-dire la somme de la longueur du fleuve Congo, 4640 mètres, et de la hauteur du puits de Dôme, 1465 mètres.
Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Et c'est ainsi qu'Allah est grand et que l'éléphant est irréfutable.
Absolument.
Alors, allons-y.
Yeah.
Histoire des femmes. La femme remonte à la plus haute antiquité. Elle est coiffée d'un haut chignon, c'est elle qui reçoit le facteur, qui reprise les chaussettes et fait le catéchisme aux enfants. Je l'ai bien connue dans mon enfance, sous la forme insolite de Mademoiselle Guérin. Nous étions assis sur un banc, elle sur une chaise en face de nous. Toute petite, toute menue et tout de noir vêtue. Pareille à une fourmi bienveillante, avec de beaux yeux bleus et de très jolis cheveux blancs. Et un boa autour du cou, un petit boa, pour le grandiose, pour la toilette et la féminité, pour le principe et la bourgeoisie, bref, pour la classification. Ce boa nous fascinait, il avait des plumes noires qui se moiraient de reflets insolents. Nous le trouvions luxueux et incompréhensible. Ça se passait à la sacristie. Il fallait répondre aux questions. Qu'est-ce que Dieu? Qui vous a créé? Que signifie l'huile de Saint-Crème? L'huile du Saint-Crème signifie, disions-nous, la bonne odeur des vertus que le chrétien doit répondre. Sur quoi nous arrachions une plume de boa prestigieux de Mademoiselle Guérin en criant « plume de coq » avec exaltation et, la tenant entre le pouce et l'index, nous soufflions dessus violemment. Elle s'envolait. On voit par là si j'ai connu la femme. La femme se compose essentiellement d'un chignon et d'un sac à main. C'est par le sac à main qu'elle se distingue de l'homme. Il contient de tout, plus un bas de rechange, des ballerines pour conduire, un parapluie Tom Pouce, le noir, le rouge, le vert et la poudre compacte, une petite lampe pour fouiller dans le sac, des choses qui brillent parce qu'elles sont dorées, un capuchon en plastique transparent et la lettre qu'on cherchait partout depuis 3 semaines. Il y a aussi son mouchoir, une grosse paire de souliers de montagne. Et on ne s'expliquerait pas autrement la dimension des sacs à main. La femme a 3 sortes... Ah, pardon. Il y a des femmes qui chantent la Marseillaise, drapées dans le drapeau tricolore. D'autres qui attendent l'autobus 27 au coin du boulevard Arago. Il y en a qui rappellent leurs chiens. Il y en a qui jouent du tambour dans l'orchestre des Hirondelles. D'autres qui sont parents d'élèves. Et d'autres qui volent des lapins. On voit par là leur infinie diversité. C'est pourquoi il est difficile de prendre une vue synthétique de la femme et de faire d'elle un tableau complet. Le docteur Garnier a réussi pourtant en 1883, dans son beau traité du mariage, à la page 196, à établir d'une façon générale que la femme a la graisse plus blanche et bien plus fine que celle de l'homme et le genou plus gros et plus rond. Elle a également 10 ans de moins. Cet âge inférieur à celui de l'homme change aussi bien moins fréquemment. Balzac pose en principe que les 10 plus belles années se situent pour la femme entre 29 et 30 ans. La femme a 3 sortes de chichis. Les grands chichis, les moyens chichis et enfin pas de chichis du tout. Pour faire les grands, elle oint sa peau de substances grasses, violemment colorées. Elle peint son corps en guerre, comme les soldats Hurons, avec des produits en franglais. L'eyeliner, le flashback, que sais-je. Elle se badigeonne de flashback, elle se frictionne les omoplates à l'eyeliner. Elle va chercher du bouillon de poireau à la cuisine. Elle se fait des masques de tomates, de jaune d'œuf et de fromage blanc. Elle laisse durcir, puis elle arrache avec les ongles. Elle se baigne dans le jus de concombre, elle se frotte les gencives avec un noyau de pêche, elle se parfume à la chlorophylle, elle se caresse avec de l'échalote, elle se gratte avec des orties, elle garde les pieds en l'air pour s'amincir la cheville, elle dit pêche, poire, pomme, prune pour s'arrondir la bouche, elle se fait macérer dans la purée de fourmis. À peine sèche, le coiffeur l'enferme au fond de sa cave, à côté de 25 autres femmes, sur des fauteuils, toutes immobiles, comme des poupées, comme des momies, dans un drap blanc. On peut les voir par un soupirail, mauve ou vernil, parfois même vert pistache, dans un éclairage au néon. On dirait des mortes dans leur tombe, c'est un sous-sol de science-fiction. Tout le long de cette chambre des supplices, elles sont coiffées jusqu'au menton de casques gaulois reliés à des souffleries par un système de tuyauterie qui s'apparente aux tubulures de l'hélicon. Dans cet attirail scientifique, elle ressemble à s'y méprendre à des scaphandriers, à des ordinateurs, à des martiens, à des contrebasses, aux réduits du chauffage central. On dirait des mégathériums branchés sur des sarusophones. On croit avoir épousé une jeune fille, on s'est marié à un alambic. tels sont les grands chichis de la femme. Pour les moyens, elle se contente du chignon banane. Pour pas du tout, décapée aux acides, elle est complètement désincrustée. Faut-il lui dire que c'est ainsi qu'elle est la plus belle, déconsidérant les travaux par lesquels elle a appris tant de peine à se transformer en grand cheval de tournoi? Où est le tact? Louez-la sans crainte de sa beauté sans ornement. Ce n'est pas pour vous qu'elle se condamne au grand chichi, c'est pour vexer sa meilleure amie pour qu'elle en crève de jalousie rentrée. Et plus encore, pour son propre plaisir, pour se donner une grande fête personnelle, pour faire tourner le manège au milieu du village avec ses cuivres et ses vermillons. Un grand écrivain vient d'écrire un ouvrage pour nous montrer que la femme qui veut s'émanciper se réveille dans un lit glacé, devient très rapidement frigide, souffre de dettes et de diabète galopant et finit dans la crocianose, maladie de la circulation qui la rend chauve et lui fait les pieds bleus. Ces considérations, nombreuses, montrent l'importance de la femme. Elles ne diffèrent d'ailleurs de l'homme que par le sexe. Les femmes sont nos frères féminins. Sans elles, plus de belles-sœurs, plus de cousines, les familles n'auraient plus de branches collatérales, ni l'homme marié de femmes légitimes. La civilisation en serait toute transformée. On imagine difficilement, au fond, une civilisation sans femmes. L'essai en fut tenté à Sparte, il aboutit à la stérilité. Alors, c'était Bludan avec Caltajader, au vibra, Willy Bobo à la batterie et Mongo Santa Maria, bien sûr, au percu.
Le soleil vient de quitter le signe des poissons. Les hommes qui naissent sous le signe des poissons ressemblent, assurent les astrologues, à la baleine, au phoque, à Renan et au turbo. Ils ont l'œil globuleux, la chair pâle, le regard vague, perdu dans des songes infinis. Le pied court, large et mou de la baleine, du moins de la baleine idéale. La moustache rare du veau marin. Ce sont des poissons de type dilaté. Ils épaississent en se ramollissant, comme Charles VII et Sébastien Bach. On leur conseille le soluté physiologique de sel marin isotonique en bain de pied ou en compresse chaude et une chaussure large à bout dur. Ils doivent éviter comme la peste les eaux stagnantes, l'humidité, les rez-de-chaussée, parfois même certains entresols. Et c'est pourquoi leur cabinet de travail est toujours au premier étage, dans des maisons de style néo-gothique où la lumière tombe obliquement par des vitraux losangés de vert et de jaune sur des planchers à chevrons merveilleusement cirés qui sentent le miel dans une pénombre de sacristie. Leur bibliothèque aux meubles noirs, éclairée d'un jour d'aquarium, est vaste comme une cathédrale. Ils s'y tiennent derrière leur bureau, à la façon du poisson rouge, derrière un gravier de porcelaine, et regardent fixement à travers le vitrage. Deux gravures sont pendues au mur avec des personnages en costume Charles VII, le droit de cuissage, la chasse au lévrier. Pourquoi ? Nul ne le saura jamais. Il y a toujours dans la réalité des éléments énigmatiques qui déconcertent, voire un arbitraire révoltant. C'est ainsi qu'ils ont tous un oncle gendarme dans les Pyrénées, assis sur un banc vert devant un petit autel, qui porte sur ses genoux avec beaucoup d'orgueil un bébé au teint jaune, d'une apparence chétive. Il faut prendre les choses comme elles sont. Tels sont en gros les poissons dilatés, du moins suivant les astrologues. Ces pâles rêveurs aux vêtements démodés, qui travaillent dans des bibliothèques héritées de quelques grands-pères qui avaient bâti la tour Eiffel ou fut ingénieur dans Jules Verne, regardent à travers le vitrail de leur aquarium en faux gothique le Kremlin des cités futures et bâtissent les châteaux de la Lune. Ce sont les hommes des grandes étendues plates, des déserts froids, des steppes inhabitables. Ils construisent pour elles en plastique les cathédrales et les hôtels de ville, les casernes, les hôpitaux, les usines et les HLM qu'on y jette en hélicoptère en vue des besoins de l'homme d'après-demain. Ils couvrent des terres inconnues de villes grandes comme Tokyo qu'ils élèvent en 3 jours. Leurs avions les sèment comme du grain. Ils y ajoutent la statue équestre de grands hommes qui viendront plus tard et des cimetières préfabriqués avec des morts en matière synthétique pour donner aux premiers habitants de ces cités une sensation de chez soi et de patrie habituelle. Ils ont soigné tout particulièrement la face photographiée de la Lune, téléphone zéro et la suite, grâce à des systèmes de vérin qui peuvent maintenir en équilibre sur 100 mètres de cendre fine un monument de porphyre pour un caniche défunt ou un palace de 15 000 voyageurs. Le siège est dans la banlieue de New York. Le contentieux est dirigé par une baronne d'origine balkanique. En même temps, il balise les futures voies d'accès des petites gares, d'appareils à sous et de Vespasiennes en plastique jaune qui surprennent au milieu d'un désert éternel. C'est ainsi que l'homme des poissons dilatés attelle au char du poisson lune le poisson scie et le poisson marteau. Il met la précision au service de l'immense. Il ne suffit plus de dire que le poisson ressemble au roi de Rome, à Latude, à Hölderlin et même à Aristide Briand. Le type même du poisson moderne nous est fourni par Hippolyte Bourdin, dont la théorie magistrale sur les cames de second secours permirent les gros travaux d'Ausset et Bernheim qui, suivis par Audouin, amenèrent la création de la cam à bout simple, dont l'utilisation fortuite par les Esquimaux des relais dans les rites funéraires du Nord permit au génial d'Orsonval l'explication de moins en gros des civilisations glaciaires. Rappelons aussi qu'on doit à Hippolyte Bourdin la soupape homocinétique qui ne diffère de la soupape de Werth que par l'adjonction d'une came à glissière à la hauteur de la soupape et qui démoda en 3 mois la soupape parallèle d'Altmann. On devine toutes les applications qui pourraient en être tirées dans le domaine du ballon sphérique et combien le même système employé souplement améliorerait les chasses d'eau, les flageolets, le cor anglais, plusieurs autres instruments de musique et la machine de Volz et Glorietti pour l'impression des tissus spongieux. L'homme-poisson meurt en général par éclatement, comme le poisson trompette au fond du golfe de Guinée, ou comme Roland à Roncevaux avec un cri qui rappelle le clairon. On l'immerge en hélicoptère dans le sable des nécropoles qu'il a bâti pour les cités futures. Ses cendres y fertilisent l'avenir, sa légende féconde la chanson. Tels sont les dires des astrologues, et on se demande comment ils peuvent savoir des choses si vagues et si précises. Leur assurance étonne les hommes, et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Linda Hopkins, I can't. L'homme déteste être bastonné à l'âge de 95 ans. Et c'est pourquoi il a inventé des robots qui peuvent faire toute chose à sa place, comme de recevoir des coups de bâton. Le plus grand de ces robots est Sabor, Sabor 5 pour être précis. Il pèse 462 livres et mesure 2,37 m. Il fait tout comme vous et comme moi. Il marche, il tourne, il se gratte l'omoplate, il lève les yeux, il baisse la tête, il questionne, il répond, il parle toutes les langues, il se trompe dans ses additions, il fume, il boit, il donne du feu, il dit du mal du gouvernement, il indique l'heure exacte, il joue de l'harmonica, et il sait danser la samba. Bref, s'il n'y avait pas l'homme, ce serait un grand progrès. On peut le voir au musée des arts décoratifs. Seulement, à le voir, surtout quand il boit son whisky en fumant d'excellents cigares, on se demande pourquoi ne pas faire des choses soi-même. D'autant plus que tout y invite. Une réclame obsédante poursuit l'homme du conseil de faire lui-même ses reliures, sa bibliothèque, son coin lecture, sa robe d'été, son gazon, sa maison de campagne, sa toilette, sa barbe, son bonheur. Soyez heureux, nous nous chargeons du reste. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le conseil impérieux de faire sa lessive la nuit. On le voit partout. Faites votre lessive la nuit. J'ai fini par céder. D'abord par crainte. Si on n'obéit pas, qui sait ce qui pourra arriver? Les personnages anonymes qui vous donnent ce conseil ont l'air très sûrs de leur affaire. Il vaut peut-être beaucoup mieux ne pas les contrarier. Ensuite, par contagion. Une nuit sur les boulevards, j'ai vu une chose impressionnante, exactement sur une avenue déserte. Il y avait là une porte en verre qui s'ouvrait sur une salle étroite, un long couloir éclairé au néon, et à droite du couloir, des appareils à sous. Ou des distributeurs de bonbons. Enfin, quelque chose de ce genre. Jaune clair, vert, rouge, tout ce qui est de plus beau. Et cinq ou six messieurs barbus qui ressemblaient à Tristan Bernard et se livraient à d'étranges manèges, chargés de mystères métaphysiques comme les personnages de Kafka. Oui, voilà. Ils tenaient de Kafka et des frères Jacques. Ils portaient des paquets, ils les vidaient dans le mur, ils mettaient de l'argent dans les fentes, ils pressaient sur des petits boutons, ils s'asseyaient ensuite et ils lisaient le journal sur des chaises de jardin. Ou alors ils parlaient comme à la fontaine du village quand les femmes viennent remplir leurs seaux. Ils faisaient les 100 pas sur le trottoir. Ils rentraient, ils allaient aux appareils à sous, ils regardaient par des transparents dans le mur, on ne sait quelle photo ou quel spectacle magnifique. On voyait s'allumer des lumières rouges ou vertes. Ils extrayaient du mur des chemises et des caleçons, du linge rose et des soutiens-gorge. Ils roulaient ça dans un journal, ils l'attachaient avec une ficelle et ils partaient d'un pas rapide avec leur barbe et leur paquet. Sous les platanes, sans feuilles, presque ostensiblement, je faillis aviser la police. On m'expliqua pour m'en empêcher, mais était-ce vrai ? Que c'était des gens très distingués qui venaient laver le linge de la semaine et qui causaient en attendant que ça sèche. Des messieurs vraiment bien, dans la force de l'âge, posés, sérieux, républicains, des comptables, des architectes, résumons-nous, des pharmaciens. Voire un peintre figuratif, en un mot, des pères de famille. Je fus séduit. Des grandes idées m'attirent toujours. Celle de faire sa lessive la nuit à je ne sais quoi de si magnifique qu'elle s'apparente aux joies du réveillon. Alors, c'était Biréli Lagrène, trop beau pour être vrai, un thème de Loulou Gasté.
Cette chronique, décidée de plus en plus fermement à ne plus chanter que les grandes choses, chantera aujourd'hui les chiens. Elle a déjà chanté la lune, le soleil et les océans, les montagnes et la viande de cheval, que sais-je, les trottoirs, les étoiles, l'horizontalité des plaines, elle ne saurait éviter le chien. Qui peut se vanter d'éviter les chiens? Il y en a sur tous les trottoirs. Le chien, tel qu'on le voit aujourd'hui et qu'on l'emploie dans les villas de banlieue pour éloigner les cousins pauvres en leur mordant au gras de la cuisse, le chien remonte à la plus haute antiquité. Ce fut lui qui dévora le berger Actéon parce qu'il avait vu Diane au bain. Il craint les tiques, le froid, la faim et les sergents de ville. C'est pourquoi il vole le gigot sur la table de la cuisine et le mange en cachette dans l'escalier de la cave. C'est pourquoi aussi, en hiver, on lui tricote des pulls verts de couleur verte et on l'habille de petits paletots qu'on peut trouver à la manufacture d'armes et cycles de Saint-Étienne, forme raglan, avec poche, poitrine et col officier. Elle vend en outre des bottes pour chiens en caoutchouc pour l'extérieur, en feutre pour l'appartement, à 3 boutons ou 2 seulement pour les bassets, un peu moins cher, des lunettes pour chiens astigmates et des faux cols en cellulo avec nœuds papillons et boutons à bascule dont il existe une version fantaisie à rayures rouges qui coûtait 15 centimes de plus dans les catalogues d'autrefois. On voit par là que l'homme peut vêtir son chien de la façon la plus distinguée. Tous les chiens ne se ressemblent pas. Il y a 2 sortes d'espèces qui sont les chiens noirs et les chiens jaunes. Les chiens jaunes sont courts et trapus. Ils ont l'air de Jésus de Morteau, montés sur des pieds Louis XV avec la tête de Monsieur Churchill. On les fabrique sans doute en Chine, comme les griffons et les chimères. Une langue de taffetas rose leur pend au coin de la gueule, leur face noire et leurs yeux en boule, leur front ridé par l'inquiétude et on ne sait quelle désolation, leur font une tête de nègre déprimé, de bantou affligé par un récent veuvage ou de ramoneur orphelin. On y lit la tristesse congénitale des singes, cette désolance infinie. Leur regard interroge. Il n'obtient pas de réponse. L'angoisse du monde les accable à jamais. Parallèlement, ils adorent l'os à moelle, la saucisse de Toulouse et la choucroute garnie. Les chiens noirs également, mais ils sont plus foncés. Leurs poils frisés se prêtent à 1000 architectures. On peut les tondre en if, en lion, en cathédrale. Parfois, on leur laisse la crinière et un pompon au bout de la queue. Parfois, on les rase tout entiers, à l'exception de larges pantalons. Bref, on les traite en clowns. Plus ils sont ridicules, plus ils ont de prix dans les concours. Que serait l'homme sans le chien? On n'ose pas y penser. Le chien étant l'ami de l'homme, l'homme n'aurait plus d'amis. L'aveugle tâtonnerait en vain au bord de la rue à traverser. Le voyageur périrait dans la neige sur les pentes du Mont-Saint-Bernard. Nous ne verrions plus dans les cirques le barbet jouer au domino, lire le journal et compter jusqu'à 12. Les jeunes enfants désorientés seraient obligés d'attacher les casseroles à la queue du tigre royal. Les cousins pauvres entreraient sans vergogne dans la villa du cousin riche. Il y aurait plus de saines distractions, plus de tranquillité, plus de police, plus de plaisanterie, plus d'amitié. Avec le chien, tout change. Il suffit d'une pancarte sur laquelle on met « chien méchant » et la famille peut se battre en paix, sans intervention extérieure. Mais l'inscription commence à se démonétiser. Les raffinés mettent maintenant « chien cruel » et les psychologues « chien douteux ». Le chien douteux fait plus sérieux que les autres. On sait qu'il a été testé. Il est 1 heure à la tombée du jour, particulièrement éprouvante, émouvante. Douce en été, au soleil couchant, noir et glacial au mois de décembre, c'est l'heure du chien. On voit alors sur les trottoirs les chiens de Paris promener leurs maîtres. De frêles jeunes filles, des dames en noir, des messieurs barbus, des femmes de chambre portugaises, des personnages considérables décorés du ruban de la Légion d'honneur. De temps en temps, le chien s'arrête au pied d'un marronnier, s'accroupit et regarde dans le vide. Le front convulsé par l'effort. Son maître, à l'autre bout de la laisse, regarde ailleurs, d'un air pensif mais détaché. Il s'efforce à garder une attitude mondaine. La nuit tombe, l'œil de l'homme discerne les étoiles de 6e grandeur. Procyon brille d'un éclat liquide, il voit son chien dans la constellation. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
Depuis que je suis sur la terre, c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je fais un mauvais sans en fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, le fusier anémié, l'estomac à bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine. Oh mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traqué. Oh mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Les reins un bien trop fins, les boyaux bien trop gros, les épaules qui se frôlent, le sternum qui se dégomme, et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille, et le coccyx qui se dévixe, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, et les cuisses qui se raidissent, les guipoles qui flageolent, j'ai les chevilles qui sortillent. Oh mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traite. Oh mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien portable. Le cœur en largeur, les poumons tout en long, les broncules qui ondulent, les tibias à raflapla, les mollets est trop épais et les orteils pas pareils. J'ai les coudes qui se dessoudent, la petite pute qui chahute, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain, les orphages qui surnagent, les gencives qui dérivent, j'ai le palais et qui est pas laid, mais les dents c'est innovant, et les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, j'ai les cils qui défilent, les tourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires. J'ai le nez et tout bouché, le trou du cou qui se découvre. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours pas traite. Ah mon Dieu, c'est embêtant, je ne suis pas bien profond.
C'était Je ne suis pas bien portant avec Johnny Rockefeller. En fait, Johnny Rockefeller, c'était Jean-Yann. Chronique des montagnes du globe. La terre est couverte de montagnes et rien ne m'empêchera de les chanter. J'ai déjà dit les océans, la viande de cheval, que sais-je encore, pourquoi ne chanterais-je pas les montagnes? Les montagnes datent de la plus haute antiquité. Elles représentent un phénomène orographique, que dis-je? Le phénomène orographique lui-même. C'est ce qui leur donne tant de majesté. Il n'est rien de plus orographique que les pics et les chaînes de montagnes. Ils naissent du ratatinement de la terre qui se ride, se plisse, se casse, se fend, ce qui provoque des plissements herciniens, du calcaire coquillé, des cluses, des trous, des bosses, du lia, du gneiss, des micaschistes, des synclinaux et des anticlinaux. Et encore, il ne s'agit là que du béaba de ces contorsions géologiques. C'est un micmac épouvantable. Prions Dieu de ne jamais voir ça, surtout quand il y a des volcans. Ça crache, ça fume, les forêts prennent feu avec les monstres préhistoriques, la terre a des craquements de tonnerre, les brontosaures et les iguanodons grillent comme des allumettes dans la fougère géante, leur graisse fondue se répand sur le sol, la terre s'ouvre et engloutit le taux. C'est ce qui donne naissance à la houille qui est si pratique pour faire du feu de charbon. On l'extrait à Anzin et en Haute-Silésie pour la convertir en gaillette, en tête de moineau, en braisette, en coque et en boulet flambant. On trouve aussi des mines de potasse en Alsace et des mines de sel dans le Jura. Résumons-nous, les principales montagnes sont le Montmartre, le Mont Blanc, les Pyrénées, la montagne sans nom, les buttes Chaumont, l'Himalaya et la montagne Napoléon, parmi bien d'autres. Et signalons aussi le casque de Néron qui est à côté de Grenoble et cause plus d'accidents qu'on ne l'imagine d'abord, et le Puy de Dôme, près de Clermont-Ferrand, sur lequel Pascal inventa la pression, du moins en gros. Il est très difficile de classer les montagnes. Les unes sont hautes et les autres petites. À la limite, elles donnent la plaine qui n'est autre chose qu'une montagne plate. Mais entre les hautes et les petites, il y a le nombre infini des moyennes, qui se rapprochent tellement des hautes ou des petites qu'il serait injuste de les en séparer. Il faudrait créer la notion de montagne faiblement ou violemment moyenne ou aussi moyennement moyenne, qui compliquerait tellement la chose qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Il vaudrait mieux donc les classer d'après leur ressemblance physique et par exemple en montagne qui ressemble à l'empereur sur son lit de mort et en montagne qui ressemble à autre chose. Le Montmartre est la patrie de la plaisanterie française. La gaieté y a bâti ses temples, parfois même ses musées, où un public pieux écoute dans un silence flatteur les facéties les plus classiques de 1905. Certains sont voués à l'ambiance. Elle se compose d'un mélange étonnant de costumes bretons, de couteaux de Avirol, de goélands, de chats noirs et de chevaliers de la lune. Le mariage incestueux de Ronsard et de Bruant et de Botrel et de Ronsard, ne pouvait se faire qu'à Montmartre. C'est la patrie même du folklore. Le folklore n'a plus de patrie. C'est un enfant de la butte. C'est un article de Paris. On voit par là combien la montagne est diverse, comment elle sert la cause du commerce local et contribue d'une façon personnelle aux majestés de la géographie. Mais le Montmartre est à peine une montagne. C'est un programme de l'esprit humain, un progrès de la science et de l'industrie. Le Mont Blanc, au contraire, forme une masse matérielle célèbre devant laquelle on se sent écrasé. Les Delweiss croient sur ses glaciers, l'alpiniste sue sur ses pentes. C'est un accessoire shakespearien. Il est si haut que nul déluge ne peut l'engloutir complètement. C'est pourquoi les prophètes y donnent leur rendez-vous quand ils prévoient la fin du monde. Ce fut le cas il y a quelques années. Un prophète y fit venir les hommes. La fin du monde devait se passer un mercredi à 14h16. D'après des informations sûres, le déluge engloutirait tout jusqu'à 4607 mètres. Le rendez-vous était à 4803. Il vint des gens de partout. Il en vint d'Italie avec des canaux pneumatiques. Il les portait en bandoulière. C'étaient des ouvriers de Turin. Ils arrivaient munis de permissions de fin du monde. Pour 48 heures généralement. L'angoisse était très grande et l'orage effrayant. 14h10, 14h15, 14h16. À 14h17, il ne s'était rien passé. À 14h30, l'inquiétude devint à peu près générale. À 18h, ce fut le découragement. À 20h, tout le monde protesta. À 20h15, il n'y avait plus personne. Le prophète, cruellement déçu, fixa la fin du monde à une date ultérieure. On voit par là qu'il ne faut jamais se décourager. Faisons confiance aux événements, ils ne manqueront pas de se produire. La prochaine fois, je chanterai les fleuves. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Yeah. Barney-Kessel.
On va m'accuser de rabâcher, mais c'est seulement que je me répète. Il y aurait de la mauvaise foi à me le reprocher. Il s'agit là d'un phénomène purement sénile que les médecins expliquent facilement par une irrigation diminuée du cerveau. Les artères se durcissent, les capillaires s'engorgent, le sang n'arrive plus aux zones utiles pour la pensée. Le cerveau ressemble, en moins engageant, à une vieille éponge desséchée. Une vieille éponge en fibres végétales pour l'entretien des faïences sanitaires. C'est une chose qui s'obtient par l'âge ou l'alcoolisme. Lorsque j'étais enfant, on faisait de très jolies coupes de cerveau, ainsi ratatinées, sur de grands tableaux pédagogiques qui s'accrochaient au mur de la classe, à des pitons par des œillets ourlés de laiton. Les parties molles étaient en bleu, les parties bonnes restaient en rose. C'était pour inspirer l'horreur de la nisette. Rien de plus beau, ni de plus instructif. Sauf le foie. Le foie était terrible. On en jetait le Bourgogne au pourceau. On voit par là qu'il s'agit tout bonnement d'un phénomène très naturel et non point de mauvaise volonté. On ne saurait reprocher un paralytique d'avoir des jambes qui ne marchent pas. C'est ce qui me met parfaitement à l'aise pour me déclarer une fois de plus contre les nains en céramique. Le nain de faïence est une foi trompeuse. Le nain de faïence est une superstition. On en met aujourd'hui partout, notamment sur les espaces verts qui entourent les HLM de luxe. La différence entre les HLM de luxe et les HLM de non-luxe est qu'ils sont parfaitement semblables, sauf en ce qui concerne le prix. L'un est à loyer modéré, l'autre à loyer immodéré. On voit par là l'énorme écart. Le nain de faïence est chargé de le combler. Le nain de faïence, en réalité, ne se justifie par nulle métaphysique. Le nain de faïence est une illusion. Il sort de Blanche-Neige avec la barbe en cœur, surmontée d'un capuchon rouge, et remonte plus anciennement aux opéras de Wagner, aux contes de Grimm, aux Nibelungen. C'est le nain de l'or du Rhin, le kobold silésien, l'enfant des Erzgebirge ou des Siebengebirge, disons des monts ferrugineux, le petit génie des métaux souterrains. Pour que ce soit plus joli, on lui fait jouer de la flûte avec un oiseau sur l'épaule. Mais qu'avons-nous à faire de ce nabo bavarois? Même juché sur quelques pierres ponces ou des épicéas japonais. Le matin, après quelques bâillements, plusieurs cris d'ours et une douzaine de grognements, on aime à se retourner soi-même, s'offrir une cigarette, se dire des choses aimables, s'insulter, s'exhorter, se pousser dans la journée avec des ordres secs, bref, rencontrer un camarade et un mentor. Mais pas ce nain, il vous coupe l'appétit. On n'a que faire de son perroquet. Son oisive vieillesse vous insulte. On n'a pas le temps de jouer de la flûte pour les moineaux. C'est un exemple à ne jamais suivre à notre époque. Un résidu anachronique du vieil âge d'or. Il ne peut qu'entretenir dans l'âme des regrets réellement inactuels. Mieux vaudrait ces grandes araignées que Germaine Richier sculptait si bien pour les pelouses ou le pauvre Giacometti, ces hommes à bras de faucheux, ces femmes en branches moussues. Ou ce Don Quichotte bleu charron, tout nu, qui fumait une celtique assis sur une pierre du jardin, dans le parc du musée Rodin, il y a 6 mois, avec une tête tout en caverne, en ténèbres et en falaise, comme un dessin de Victor Hugo. Le nain en faïence est une illusion. C'est un Père Noël rabougri, au service du banquier, qui s'est fait architecte pour vendre du vent à prix d'or, du centimètre carré de l'acajou en bois blanc. Or, le Père Noël lui-même est démonétisé. Les enfants qu'il emplit naguère de révérences et de frissons sacrés, le chahutent aujourd'hui aux portes du printemps. C'est depuis qu'on le fabrique en série. On croit au Père Noël, pas à 10 Pères Noël, pas à 50, pas à un syndicat. On a tort de commercialiser. Le commerce tue la foi et la poule aux œufs d'or, le Noël, la fête des mamans, le jour des pères, entre une journée de détergent, une journée du rasoir à la lame bleue, on sait plus ce qu'ont été les choses, elles ne sont plus, le Noël se vend 2 mois d'avance, il faut relire, pour le retrouver. On ne sait plus ce que purent être une pomme, une rose, une bague, voire un âne ou un pâté. C'était des trésors spirituels, ils brillent dans l'ombre du vieux temps, désir du cœur, désir de l'âme, haute récompense de longues vertus, plaisir profond et presque abstrait. On ne sait plus ce que furent la polaire, les trois rois, l'étoile du Bouvier, ni cette tranquillité de la neige de minuit qui fut une sérénité de l'âme, ni cette grande nuit d'astres et d'anges qui prit une odeur de jardin quand passa l'étoile du berger. Nous avions tout au fond du cœur je ne sais quel arbre de Noël que les marchands ont mis en vente. Tant pis pour lui, tant pis pour nous, tant pis pour eux, tout ne se reboise pas. Et c'est ainsi qu'Allah est grand.
In the Mood for Love, Flash Pig. Chronique des plaines et de leur horizontalité. Ayant chanté les océans, la viande de cheval et les larges trottoirs des avenues fréquentées, et décidé à ne plus chanter que les choses les plus vastes du monde, je chanterai aujourd'hui les plaines et leur horizontalité. Les plaines remontent à la plus haute antiquité. Les principales sont la Hollande, la plaine Monceau et le désert égyptien. Elles sont nées de l'absence de montagnes et se distinguent, suivant les spécialistes, par leur horizontalité. Aussi, la vue y porte-t-elle très loin, jusqu'à l'endroit où l'horizon n'a plus de couleur, où se confondent le ciel et la terre. On en éprouve une sorte de vertige, le vertige de l'horizontale, sauf en Beauce, où le cycliste est pris entre deux hautes murailles de blé qui ne lui laissent voir qu'un ruban de ciel et qui l'étouffent dans leur chaleur touffue, confite, épaisse, obscure et poussiéreuse, très dangereuse pour les asthmatiques. L'homme s'y sent confiné dans un cachot brûlant. Enfermé dans ce four de paille, il cherche l'air, il se ratatine, il souffre de claustrophobie. L'horizontalité des plaines peut être vérifiée par l'épreuve du billard. Il suffit de poser sur le terrain douteux un billard de modèle courant comme on peut toujours en trouver dans les auberges de campagne dans un rayon de 10 ou 15 kilomètres et de jouer une partie normale. Si elle se passe sans incident, on est en plaine. Si les billes au contraire roulent toutes du même côté, le billard penche, on est en montagne. La contre-épreuve peut être fournie par le test de Fourton et Gripsich, qui est surtout pratique quand il pleut, ce qui détrempe le drap du billard et empêche de rouler les billes. Pour le test de Fourton et Gripsich, on remplit d'eau une coupe quelconque, un bol ou une assiette à soupe, qu'on pose délicatement sur le sol à étudier. S'il ne verse d'aucun côté, on est en plaine. Dans le cas contraire, on est en pente. L'homme sait ainsi sans hésiter dans un premier temps de l'expérience s'il est en montagne ou en plaine. Et en observant, deuxième temps, de quel côté l'eau s'écoule du bol, il sait de quel côté penche la pente. Car c'est le même. D'où l'on peut déduire de quel côté elle monte, c'est l'autre. L'homme apprend ainsi non seulement s'il est en plaine ou en montagne, mais de quel côté il peut monter et de quel côté il peut descendre. Le test de Fourton et Gripsich rend de grands services aux alpinistes, principalement par temps brumeux.
You found a new love, and you say it's divine. I'm glad for your sake, but I'm sorry for mine. I hear you say is the real thing this time. I'm glad for your sake, but I'm sorry for mine. Oh, how it hurts my pride to have to step aside and watch somebody new take my place with you. But if you happy, I don't care if I pine. I'm glad for your sake, but I'm sorry for mine. Oh, how it hurts my pride to have to step aside and watch somebody new taking my place with you. But if you happy, I don't care if I pine. I'm glad for your sake, but I'm sorry for mine.
Et ben voilà, hein? On a terminé avec Joe Jones, I'm glad for sake.
Un peu vieillot, hein? Un peu comme
comme
Vialat,
bah, vas-y.
On peut oser ce qu'il osait à l'époque. Je sais
ouais.
pas si on oserait, par exemple.
Bah, si.
La mode est aux échanges, il ne faut pas y céder. Je lis dans l'Inter 75, un journal de petites annonces qui est daté du 21 mai. Directeur importante société commerciale échangerait secrétaire 50 ans contre deux secrétaires de 25.
Ah. Hein, hein, hein. Très bonne idée. Hein. Attention, c'est
passerait mal aujourd'hui.
Ah bah là, c'est très pré-MeToo ça, c'est plus que pré-MeToo,
c'est très mal, ouais, pauvre Vialat, il a échappé tout ça.
Il faut dire que vous pouvez quand même vous précipiter dans votre librairie préférée pour acheter les chroniques de la montagne d'Alexandre Vialat en deux tomes.
Il y en a presque 900, je crois.
Bah oui.
Exactement 900.
Et puis aussi, vous pouvez aller chez Julliard, parce que chez Julliard, ils ont beaucoup publié Vialat. Et alors là, elles sont choisies, celles-là. Bon, c'est quand même... ça fait du bien. Bon, je m'en lasse pas.
D'autant plus que c'est ainsi qu'Alain est grand.
Oui,
donc,
et que l'éléphant est irréfutable.
Voilà.
Allez, et on voit ainsi comment la littérature est faite.
Eh ben, bonne soirée.
Allez, salut.